Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Merci de votre fidélité à l'écoute de Radio de la Paix. À la une de ce 7 heures. Le vice-président régional de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a salué les progrès de la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'énergie et de l'agriculture. Au terme de son audience avec le vice-président ivoirien Koné Mélié Koné. 34,17%, ce taux de réussite nationale au baccalauréat 2024 est insatisfaisant pour l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, quand la fêtière des enseignants Sinepsi le salue et s'en félicite. Au Cameroun, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi prorogeant le mandat des députés d'un an. Et puis, de retour en Côte d'Ivoire, on s'intéressera à la une des journaux ivoiriens parus ce mercredi. Ça sera l'affaire de Jean-Claude Comé pour la revue des titres. Et puis, l'invité de la rédaction aujourd'hui est le président de Civis Côte d'Ivoire avec Francis Cassi. Docteur Christophe Kwame parlera du document de stratégie nationale, la boussole à partir de laquelle les populations devront désormais lutter contre la corruption. Ce sera en toute fin de journal. Voilà pour nos grandes lignes. Madame, Monsieur, bonjour. Le vice-président de la République, Timoko Mélié Koné, a accordé hier mardi une audience au vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, séjournant en Côte d'Ivoire. Plusieurs sujets étaient au menu de ces échanges, entre autres la fourniture de l'électricité à certains pays voisins, le développement de la riziculture pour une autosuffisance. Henri, il est au micro de Jean-Mélène Bitti.
Sur le secteur de l'énergie, la Côte d'Ivoire se présente comme un pays locomotive dans la sous-région, tant du point de vue des investissements qu'il est en train de faire, mais plus important, de retomber de ces investissements pour permettre aux autres pays, dans son voisinage immédiat, d'avoir aussi accès à ces produits essentiels, qui d'ailleurs est considéré par le président de la Banque mondiale comme un droit humain. Beaucoup de pays de la sous-région dépendent de la Côte d'Ivoire pour leur population et également leur économie puisse avoir accès à l'électricité. Quand on regarde ce qui s'est fait aujourd'hui dans le secteur de l'Anacard, la Côte d'Ivoire est vraiment un exemple. Si la même chose peut être faite dans un secteur comme celui du riz. On a fait une table ronde avec toutes les parties prenantes pour voir comment booster la production dans la filière du riz, accroître la productivité, en faire non seulement un secteur au niveau duquel la Côte d'Ivoire pourra atteindre son objectif de sécurité alimentaire et contribuer également à la sécurité alimentaire au niveau des pays de l'Afrique occidentale et dans la zone du Sahel. Pour ce qui concerne le développement humain, là aussi, en termes d'accès, nous l'avons dit avec le vice-président, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès. Il est important que la qualité se renforce pour que l'employabilité des sortants du système éducatif soit beaucoup plus forte et que les sortants du système éducatif puissent avoir accès au travail et que ceci puisse contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire.
Vous écoutiez le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana. Un atelier organisé par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance en vue de l'adoption d'une loi visant à assurer la protection des lanceurs d'alerte s'est tenu lundi dernier. L'objectif est de faire correspondre le processus de protection actuel aux recommandations de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONU-DC. On en sait un peu plus avec Christelle Isso.
Sur le cadre de cet atelier, Yao Daniel, membre du Conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, nous situe.
C'est une initiative en vue de susciter des mesures citoyennes pour que les individus puissent dénoncer tout ce qui va dans ce sens.
Kodjo Atiso, coordonnateur régional de l'Office des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime, précise qui peut être considéré comme lanceur d'alerte.
Un lanceur d'alerte, c'est une personne qui, dans le cadre de son travail, est en face des irrégularités ou des cas de corruption et qui fait des signalements aux autorités compétentes. Vous avez les membres des ONG ou de la société civile, des gens qui ne sont pas dans l'administration, mais qui arrivent aussi à faire des signalements.
Les journalistes, en tant que diffuseurs d'informations, étaient aussi représentés à cet atelier. Seriba Koné, président des journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire.
Quand on parle d'alerte, on parle de nous aussi. Parce que quand on finit une enquête, par exemple, avant de balancer l'enquête, vous faites une alerte. La dénonciation, bon, ce sont des choses qu'on fait nous-mêmes en tant que journalistes. Donc, l'un dans l'autre, on est véritablement impliqué dans cette loi.
Cet atelier se veut être un cadre d'échange, de renforcement du processus de protection des dénonciateurs en Côte d'Ivoire.
Il faut reconnaître que la loi qui porte sur les dénonciateurs, les témoins et autres constitue un cadre, mais elle n'est pas suffisante pour prendre en compte la protection des lanceurs d'alerte telle qu'envisagée par la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Les résultats de cet atelier seront transmis au gouvernement en vue d'une protection accrue des lanceurs d'alerte.
Dans le centre du pays, précisément à Yamoussoukro, les producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire ont manifesté leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de leur filière. C'était au cours d'une journée d'hommage samedi dernier. Témoin pour Radio de la Paix, Emilia O.
Conscient des sacrifices consentis et de la dynamique imposée dans leur filière par le chef de l'État Alassane Ouattara, les producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire se sont fortement mobilisés à Yamoussoukro pour lui exprimer leur reconnaissance et soutien. Leur porte-parole, Obed Blondois.
Ce grand rassemblement se veut l'expression d'un hommage mérité au président de la République pour le développement et la promotion du bien-être des populations ivoiriennes en général et des producteurs de café cacao en particulier.
Le directeur général du Conseil Café Cacao, Koné Brahima Yves, est revenu sur les réformes et actions opérées dans la filière sous l'égide du chef de l'État, légitimant l'opportunité de cette rencontre.
La mise en œuvre de la réforme de la filière, la fixation des meilleurs prix aux producteurs, l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana et l'instauration du différentiel du revenu décent, la carte du producteur. Après tant d'initiatives et de résultats obtenus, je comprends bien qu'il était donc légitime d'exprimer notre gratitude.
Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué l'ensemble des producteurs ivoiriens, fierté nationale.
Vous, les planteurs de café et de cacao, ainsi que tous les autres grands planteurs, vous êtes notre fierté. Le travail que vous faites procure à la Côte d'Ivoire d'être champion du monde en matière de cacao.
Les producteurs de café cacao, à en croire leur porte-parole, ont payé au trésor ivoirien la somme de 50 millions de francs CFA représentant la caution du chef de l'État à l'élection présidentielle de 2025. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
On ouvre à présent un chapitre éducation nationale. Depuis lundi dernier, les résultats du baccalauréat session 2024 sont connus et au vu du taux de réussite nationale estimé à 34,17%, ce résultat n'est pas reluisant pour le président de l'Organisation des parents d'élèves étudiants de Côte d'Ivoire, l'OPECI, qui soutient que seule l'application rigoureuse des états généraux de l'école peut lui faire avoir de meilleurs résultats. Écoutons Claude Akakadio.
Bon, le taux 34,17%, ça veut dire que nous sommes très loin de la moyenne. Donc pour moi, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas réduisant ce résultat-là que nous avons. Je pense que les états généraux de l'éducation ont été organisés, hein. Toute la Côte d'Ivoire s'est mobilisée pour ces états généraux de l'éducation. Nous savons ce qui mine le système. Désormais, nous devons pouvoir chercher la thérapie pour redresser le système éducatif ivoirien. Et donc, il faut qu'on applique les états généraux de l'éducation dans sa globalité. Si on l'applique, ça va nous aider. Parents d'élèves, décideurs, enseignants et tout le monde, nous devons nous mobiliser. Toute la population doit pouvoir se mobiliser autour de son école comme un seul homme. C'est pour ça que nous, au niveau de notre organisation, nous sommes en train de nous redéployer, mettre des sections un peu partout pour que nous puissions rapprocher notre organisation des parents pour que les sensibilisations qu'on fait là soient relayées régulièrement pour que la machine du système éducatif soit vraiment huilée pour des résultats favorables que nous avons. Au moins la moyenne, au moins 10 sur 20.
Clonaka Kadio, à l'instant, il est le président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, OPECI. Et à la différence de l'OPECI, le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, SINEPSI, salue ce taux de 34,17% ainsi que l'amélioration de ceux du CEPE et du BEPC. Son secrétaire général national, Andjou Andjou.
Je voudrais très sincèrement féliciter tous les enseignants de Côte d'Ivoire parce que cette année a été une année bien tenue. Du primaire au secondaire, il y a eu le calme, il y a eu la paix. Comme quoi, quand nous signons une trêve sociale, comme quoi, quand gouvernement et enseignants s'entendent, nous avons de bons résultats. Je demande au gouvernement de continuer sur cette lancée parce que nous avons quelques petits points encore en suspens. Il faudrait que nous puissions nous accorder pour que l'année prochaine soit meilleure. Cette année, c'est bon. Félicitations aux élèves qui ont compris que seulement le travail paye. La tricherie ne mène nulle part. Ils ont travaillé, je voudrais les féliciter. Il y a eu plus de filles que de garçons au niveau du bac. Mais aussi au niveau du primaire, les enfants ont travaillé. Vraiment, je voudrais féliciter les enfants. Féliciter aussi les parents d'élèves qui ont compris que l'accompagnement est important. L'école n'est pas une garderie. Il faut être en contact avec les enseignants. Et donc, féliciter toute la chaîne, sans oublier le ministre Maria Toukoné, qui fait du dialogue social un point important de sa gouvernance.
Donc, pour vous, 34,17% d'admis au baccalauréat, c'est bon?
Oui, c'est bon par rapport à l'année passée. Il y a eu 2 points de plus. Nous avançons. Nous savons d'où nous venons.
Vous écoutez le secrétaire général national du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, SINEPSI, Andrew, qui était en ligne avec Soro Adams. Et puis, hors de nos frontières, hier mardi, au Cameroun, l'Assemblée nationale camerounaise a adopté le projet de loi prorogeant le mandat des députés, courant initialement jusqu'au 10 mars 2025. Il est étendu jusqu'au 30 mars 2026. Un décalage justifié par les autorités face à l'important déploiement matériel, humain et financier que constitue l'organisation de scrutin. Le journal gouvernemental Cameroun Tribune évoque les difficultés de trésorerie de l'État. C'est la 3e fois consécutive que le mandat des 180 membres de l'Assemblée est prolongé. De même pour les élus municipaux, mais qui pourra être prorogé non pas par l'Assemblée nationale. Voilà. De retour dans le studio de Radio de la Paix pour retrouver Jean-Claude Comé, qui est chargé aujourd'hui de la revue des titres des journaux ivoiriens parus ce mercredi. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Linda, bonjour à tous. C'est une floraison de sujets qui nous est donné de constater aujourd'hui sur la une des journaux. Et parmi ces sujets, on retient cette tragédie survenue hier sur le pont des Gaules au plateau, où, comme le rapporte Le Sursaut, un homme descend de sa voiture et se jette dans la lagune. Sur les circonstances de cet acte, Le Jour Plus indique que c'est un commandant de la brigade de gendarmerie nationale qui s'est jeté hier dans la lagune Évrier. Soir Info écrit qu'il y aurait eu une altercation avec sa femme et c'est après cela que le commandant de la brigade a garé sa voiture sur le pont et a plongé dans la lagune. La lutte pour le trône du roi Baoulé est aussi un sujet qui capte l'attention de certains confrères qui visiblement dans cette bataille ont choisi leur camp. Le Jour Plus fait référence dans cette affaire à ce que dit la Chambre des rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Quand le patriote se suit la base de cette déclaration de la Chambre des rois et des chefs traditionnels présente selon lui le vrai chef des Baoulé en la personne de Nana Akwadio Diédé, là où l'héritage se fait écho d'un appel de Kopli Boni, l'un des doyens Baoulé, a soutenu Nana Otimi Kassi Anvo, qui est, selon Dernière Heure Monde, le seul roi qui serait reconnu par les Baoulé du district d'Abidjan. En attendant le dénouement de cette affaire qui commence à glisser dans la sphère politique, parlons de politique justement, surtout de développement. Fraternité Matin s'intéresse au partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Et à ce propos, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale en visite dans le pays, estime qu'il faut plus de réformes et d'investissements. Il s'exprimait lors des échanges qu'il a eus avec le vice-président ivoirien Thiemo Kome Lekone. Le rassemblement à propos des actions de développement salue, selon ses termes, le mariage Banque mondiale Côte d'Ivoire. Un mariage qui est au super, selon ce confrère. Et hors du pays, l'Inter et l'Essor analysent la décision de sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. L'AES Domur estime l'Essor quand l'Inter présente les risques auxquels s'expose le trio Burkina, Mali et Niger. Enfin, Enfin, parlons santé avec cette information véhiculée par Fraternité Matin. 160 000 poches de sang attendues avant la fin de l'année. Ce sont les précisions fournies hier donc par le professeur Yasongi Mamadou Sekongo, qui est directeur général de du Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire. Il était l'invité de la tribune du CICG. Et tout savoir sûr. Merci.
Merci à vous, Jean-Claude Comé, pour cette revue des titres des journaux ivoiriens parus ce mercredi. Vous serez de retour dans l'édition de 8 heures pour le même exercice. L'invité de la rédaction pour terminer, et ce jour, il s'agit du président de Civis Côte d'Ivoire, une association d'éducation à la citoyenneté. Il parle du document de stratégie nationale de la boussole, à partir de laquelle les populations devront désormais lutter contre la corruption. Docteur Christophe Kwame répond aux questions de Francis Cassi.
Docteur Christophe Kwame, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est quoi la stratégie nationale contre la corruption?
Dans le cadre de la lutte contre la corruption que la Côte d'Ivoire a engagée depuis quelques années, il fallait un document unique d'orientation stratégique pour que toutes les institutions, toutes les parties prenantes du pays puissent tirer à l'intérieur de ce document matrice leur stratégie cadre. C'est ce document qu'on appelle la stratégie nationale de lutte contre la corruption. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil des ministres, a donné un avis positif à ce document.
Alors donc, ce document sera utilisé jusqu'à quand?
Dans le principe, sur le document, l'entité administrative qui ici est la haute autorité pour la bonne gouvernance et le gouvernement décideront du temps que ce document va mettre et sera utilisé par tous.
Alors, ce document va donc lutter contre la corruption, la partie publique de l'administration ou aussi dans le secteur privé?
En réalité, la stratégie nationale de lutte contre la corruption est la stratégie matrice de toute la Côte d'Ivoire. L'administration publique, le privé et la société civile ont leur part écrite là-dedans. Dans le document, chaque partie prenante qui est censée lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire a une part dédiée. Donc, il aura pour le privé, il aura pour la société civile, il aura pour l'administration publique. C'est pour cela qu'on l'appelle la stratégie nationale de lutte contre la corruption.
Donc, qui doit lutter contre la corruption?
En réalité, dans la lutte contre la corruption, il y a trois grandes parties. Il y a la prévention, il y a la détection et la répression. Si on s'arrête sur la répression, vous verrez que la répression est judiciaire et juridique à travers le ministère de la Justice. Quand on parle de détection, vous avez la dénonciation, donc les lanceurs d'alerte qui sont des individus du privé, du public, des entités simples ou des citoyens lambda. Vous avez au niveau de la dénonciation des organisations de la société civile, l'élève qui va faire un examen et on lui met en face un élément de corruption. Dans la prévention, il y a les réformes juridiques et institutionnelles qui vont faire que les pratiques de corruption vont cesser à travers des documents, des chartes, des codes de conduite.
Mais c'est quoi la corruption dans le service public?
L'ONG Transparency International, qui est numéro un mondialement connu, dit que la corruption, c'est l'utilisation par un individu dans le privé comme dans le public du pouvoir qui lui est donné dans son administration à son profit personnel et non au profit de l'intérêt général. Cette définition ouvre en effet la corruption sur des éléments qui sont financiers ou non financiers.
Donc c'est par ce document seul que tout le monde doit lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire, ou bien on peut le faire aussi autrement?
Dans le document, vous avez le public qui aura sa part, vous avez le privé qui aura sa part, vous avez la société civile qui a sa part, vous avez même les partis politiques qui ont leur part, vous avez la presse qui a sa part. Ça veut dire que ce document, il a été fait pour que toutes les entités de Côte d'Ivoire qui sont censées obligatoirement lutter contre la corruption ont leur part de stratégie dans ce document-là qui va être bientôt publié.
Alors, quand vous dites que chaque secteur a sa part, la presse a sa part, les ONG ont leur part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la presse aussi, on doit la contrôler pour voir s'il y a de la corruption en son sein?
Non, c'est pas dans ce sens. Toutes les entités que j'ai citées représentent la République de Côte d'Ivoire. La presse a obligation de lutter contre la corruption. Donc, le journaliste peut dénoncer la corruption de son collègue, le journaliste peut dénoncer la corruption de l'administration publique, le journaliste peut dénoncer la corruption lors d'un contrat de marché public entre le privé et le public. Les partis politiques identiques, un policier ou n'importe qui dans le pays qui est informé d'une corruption quelque part a obligation citoyenne de dénoncer cette corruption.
Quand on parle de dénoncer, la plupart du temps, les gens disent que c'est pour les petits qu'on dénonce, mais pour les grands, ceux qui font la politique, on ne peut pas les dénoncer.
Je suis contre cette assertion. Je demande à tous les citoyens, je demande à tous les journalistes d'utiliser nos institutions juridiques, de les saisir et d'attendre la suite. Il faut éprouver le système juridique. Pour le moment, nous venons de saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre des lois du Code pénal. Et il y avait des articles incriminés comme l'article 185. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel pour restriction des libertés. Avant la saisine, nous avons été informés par plusieurs citoyens que le Conseil n'allait pas répondre. Le Conseil a répondu.
Et le Conseil a répondu quoi?
Le Conseil a répondu que notre saisine était recevable, mais le Conseil dit qu'il y a 5 ONG qui l'ont saisie et il y a une seule ONG, c'est-à-dire Civis Côte d'Ivoire, qui a son document du journal officiel et son récépissé. Quand nous aurons toutes les inscriptions au journal officiel de Côte d'Ivoire, nous repartirons pour ressaisir le Conseil sur les mêmes arguments d'inconstitutionnalité de ces articles de loi.
Docteur Christophe Kwame, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
C'était l'invité de la rédaction, Dr Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire. Il répondait aux questions de Francis Cassis. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a salué les progrès de la Côte d'Ivoire dans les secteurs de l'énergie et l'agriculture. C'était au terme de son audience hier avec le vice-président Tiémoko Méliékoné. 34,17%, ce taux de réussite nationale au baccalauréat 2024 est insatisfaisant pour l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire quand la fêtière des enseignants Synepsi le salue. Au Cameroun, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi prorogeant le mandat des députés d'un an. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.